Vous écoutez l'épisode 003 du podcast Coureur.io avec mon invité Patrick Michel. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Bonjour tout le monde. Premièrement, je prendrai jamais assez de temps pour vous remercier. Déjà, le troisième épisode et les statistiques des deux premiers épisodes est surprenant. Je m'attendais pas à voir une croissance aussi rapide. Donc, je voudrais vous remercier parce que c'est grâce à vous. Premièrement, nous écoutant, ça permet d'avoir de bonnes statistiques. Deuxièmement, j'ai vu que beaucoup de gens ont partagé les épisodes sur Facebook, commenté sur différentes plateformes. Donc, c'est vraiment, ça nous aide des reviews sur des plateformes comme iTunes, Balado Québec, etc. Ça nous aide énormément. Donc, je vous remercie et je vous invite à continuer à le faire si vous trouvez le contenu intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai de la famille en Gaspésie et je fais toujours 2-3 séjours par année là-bas. Pendant mes séjours, il n'est pas question que j'arrête de courir, donc je vais courir sur le bord de la 132, sur le bord de l'eau, un paysage magnifique. Et un jour, je me dis, waouh, quel beau pays qu'on a, faut que je le traverse en courant un jour. Donc, je me mets à rêver, comme on disait avec Dominique Royer dans mon dernière entrevue, je suis le roi du monde et je m'imagine courir le Canada au complet. Je me donne 120 jours, je fais un marathon par jour, 21 km le matin, je dîne, je fais un autre 21 km l'après-midi. Mon plan est fait, 4 mois, je vais faire ça un jour dans ma vie. L'autre jour, je suis sur Facebook et je vois passer Patrick Michel, qui est notre invité aujourd'hui, qui lui va le faire le 1er juin 2019. Il part de Vancouver et va courir jusqu'à Montréal. Je suis comme « Wow! » J'invite Patrick immédiatement sur le podcast. Il accepte notre invitation et c'est notre invité aujourd'hui. Si vous aimez le podcast, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer un petit SMS au 514-612-3039, 514-612-3039, soit pour nous dire bonjour ou vous pouvez nous texter le numéro de l'épisode que vous écoutez qui est le 003 et nous ferons un plaisir de vous envoyer les mises à jour du podcast ainsi que les lancements d'épisodes. Nous avons aussi la page Facebook, facebook.com/coureur.io, donc si on a des promotions, des idées, petits lives avec des coureurs, des événements sporadique, ça va être annoncé là-dessus. Je vous invite à nous suivre. Et sans plus tarder, passons à notre entrevue avec Patrick Michel. Bonjour Patrick, j'aimerais ça qu'on parle de Patrick l'homme. J'ai lu que tu étais coach de course qui travaillait non seulement le physique, mais aussi le mental et la structure dans sa vie. J'ai aussi lu que tu parles beaucoup que l'étape la plus dure, c'est d'y croire dans n'importe quel défi. J'aimerais que tu élabores un petit peu sur cette partie mindset. Comment qu'on fait pour croire à un projet qu'on fait?
Ben, première chose, lorsque tu essaies de faire quoi que ce soit dans la vie, si tu n'y crois pas dès le début, c'est un problème. Tu pars déjà à moitié perdant et tout le long du process, tu n'es pas stimulé et motivé pour aller de l'avant en mettant toute ton énergie parce qu'au départ, déjà, tu n'y crois pas. Alors, dans la course, comment est-ce que ça se transcrit? Quand tu décides d'aller faire ta première course, il faut au moins que tu crois que tu vas commencer et que tu vas finir. Alors, que ce soit un 3K, un 5K, un 10K, tu ne pars pas en disant « aujourd'hui, j'y arriverai pas ». Sinon, reste chez toi parce que c'est sûr que tu as au moins 50% des chances que tu ne réussisses pas. Alors, après ça, ça se transcrit un peu plus difficilement du côté ultra. Dès que tu dépasses 42 en montant plus haut, là, tu as besoin d'y croire, mais sérieusement, parce qu'il n'y a pas de place là, au doute. Dès que tu doutes, tu commences déjà à t'affaiblir.
Je comprends. Fait que donc, on met beaucoup l'emphase sur croire à son projet, croire qu'on peut le réussir. C'est vraiment la clé, c'est la base de la réussite.
Oui. C'est une grande partie de ton entraînement et si tu fais de la course, si tu fais la compétition, tu pars jamais en disant « je vais perdre ».
Ça, c'est la base de tout athlète. Généralement, si on se dit ça, on ne se rend même pas à l'entraînement. C'est rare qu'on se rend à la compétition en disant on va perdre. Généralement, on ne se rend même pas à continuer nos entraînements. Mm-hmm. J'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours de coureur. Pas besoin d'en parler pendant 15 heures parce que je sais que tu as un grand parcours. Mais je veux que tu nous racontes comment que la passion de la course est venue à toi.
Elle est venue en deux étapes. La première, je ne savais pas que j'aimais ça courir. Donc, la première étape était plus à l'école où j'étais puni tout le temps en éducation physique parce que ce qu'on faisait n'était vraiment pas intéressant. Alors, finalement, les professeurs me faisaient courir autour du terrain. de foot,
okay.
qui est une piste standard de 400 mètres. Et finalement, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup ça. Puis j'étais puni tout le temps, alors je pratiquais ma course comme ça. Mais je n'avais jamais découvert que c'était quelque chose qui était presque thérapeutique, je dirais.
Okay.
Je le prenais encore comme une punition. Alors, il me faisait courir qu'il pleuve, qu'il neige, ou peu importe le temps, il me faisait courir là-dedans, puis je tournais en rond, mais je découvrais que je pouvais courir longtemps.
OK.
Bon, puis après ça, j'ai gradué, etc., puis j'ai perdu la course de vue pendant presque 20 ans. Là. Et un matin, en 2007,
okay.
j'ai commencé à courir de nouveau. J'ai commencé par un petit 3K.
OK.
Puis après ça, j'ai continué à m'entraîner 5 jours par semaine jusqu'à aujourd'hui. Là.
Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait 11 ans que tu cours sérieusement, qu'on peut dire, peut-être pas sérieusement, mais avec une constance.
Exact.
Qu'est-ce que la course t'a apporté dans ta vie?
Tout au début, donc quand j'ai commencé à courir sérieusement en 2007, ça m'a apporté plus une accalmie dans ma tête. J'avais besoin d'être vraiment calme, d'arrêter d'être dans 15 directions différentes. Pourtant, je performais dans tous ces domaines, mais il y en avait trop. C'est comme s'il y avait un ouragan dans ma tête et la course calmait ça.
Ça t'a permis de focaliser.
Oui, ça a permis de pouvoir, en fait, c'est vraiment me calmer. J'étais focusé pareil quand j'étais dans plein de sujets différents, mais j'avais besoin de me calmer. Si j'avais besoin de rétrograder la vitesse à laquelle je vivais.
Donc ça t'apportait le calme après tes sorties, tes entraînements, tu te sentais plus calme.
C'est ça. Après, ça a été plus thérapeutique. Ça m'a permis de régler d'autres affaires parce que j'étais rendu plus calme, donc j'étais capable de me concentrer sur des sujets de fond de ma vie et en courant longtemps, pendant des longues heures et pendant sur des courses difficiles, je m'apercevais que c'était presque comme un médicament. Ça calmait le reste.
Être seul avec soi-même longtemps, faire l'exercice physique, ça nous calme.
C'est ça. Ça recadrait plus mes choses. J'étais moins à droite puis à gauche. J'étais vraiment au centre.
Okay.
Et à partir de ce moment-là, bon, ben, c'est devenu une activité de vie comme, par exemple, prendre sa douche, prendre son petit déjeuner. C'est rendu quelque chose qui fait partie de ma vie. Si je l'enlevais, il me manquerait quelque chose. Oui, puis c'est comme dire j'ai un emploi, ça fait partie de ta vie, tu n'y penses pas, tu y vas, tu fais ton travail, tu reviens chez vous.
Exactement.
Exact.
As-tu un événement cocasse à nous raconter parmi tous tes événements de course que tu pourrais nous raconter? Je ne sais pas, quelqu'un qui est trébuché, quelqu'un qui s'est fait voler ses chaussures avant la fin de la course.
OK, première chose, je ne fais pas de compétition. Parce que en français, course et course, c'est la même chose, alors qu'en anglais, c'est run et race. Mais ici, je ne veux pas qu'on fasse la confusion. Je ne fais pas de compétition par choix pour l'instant.
Mais tu t'inscris à des événements?
Non. Il y a 2-3 courses que je vais vouloir faire.
T'es déjà invité?
Si je suis invité.
Si vous êtes invité.
Exact.
Et on parle, j'imagine, d'Ultra Trail.
Oui, c'est ça. Je veux faire Badwater. Je veux faire Badwater, qui est, comme le monde peut-être le savent pas, dans la vallée de la mort par des températures plutôt extrêmes. Et c'est à 135 000. Donc, c'est quand même assez long.
200 km dans Death Valley, Californie.
Genre, c'est ça. Et puis, peut-être Western States, si jamais je suis invité au jeu. En fait, non, c'est une loterie, mais on verra. Mais pour l'instant, je fais pas de course, j'ai pas d'intérêt, ça m'intéresse pas. Puis, j'ai pas de motivation à aller compétitionner contre d'autres gens. J'ai déjà assez de moi avec qui je compétitionne.
Ça fait 20 ans que tu cours sans te mettre ces milestones-là? Parce que pour la plupart des gens à qui je parle, ces événements deviennent un peu comme un milestone, une façon de un regard, un point sur leur course, en faire une par année, rester motivé. Je parle pour moi, là, présentement, mais c'est sûr que de savoir que j'ai une course à la fin de l'année, les matins difficiles pour se lever, ça me dit « OK, j'ai ma course, je veux arriver à mon temps », donc ça me donne un petit élan supplémentaire pour y aller. Fait que, bravo!
Toi, tu mets ta course comme étant l'élément motivateur quand c'est difficile. Moi, c'est plus ce qui me motive, c'est de dire j'ai un objectif. C'est la même chose. C'est juste remplacé par toi, tu compétitionnes avec quelqu'un, avec d'autres gens. Et moi, finalement, c'est quelque chose que je veux accomplir, que je veux enlever de ma liste et je passe à la prochaine affaire.
Puis comment tu détermines ces objectifs?
Oh, ça dépend. J'avais des objectifs à un moment donné de courir 5 km, après 10, après ça, le marathon, après un 50. Puis après ça, j'ai dit, bon, ben, on va aller à 100, puis ça a été par progression linéaire. Moi, je suis un grand fan de la constance et d'être progressif dans l'entraînement. Je fais jamais de saut brutal parce que c'est la recette pour se blesser. Et puis, bon, même que je sois excité et motivé, puis je me sens invulnérable, c'est garanti que si je fais un gros saut, la première chose qui va arriver, je vais être blessé. Et puis, ça va donner des semaines sans course et ça, c'est pas vraiment le fun. Alors, quand je set un objectif, c'est vraiment quelque chose que je sais dès le départ. Que je sais que je peux physiquement et mentalement atteindre, c'est juste une question d'entraînement. Donc, il faut que j'y croie. Et on s'en revient au point le point de fond qui est y croire avant de se mettre sur la ligne de départ.
Effectivement. Je vais juste revenir à ma question. Pendant les entraînements ou tes sorties, est-ce que tu as vu des événements cocasses?
J'étais sur la montagne de très bonne heure le matin, puis il y a 4 Doberman qui sont arrêtés devant moi.
Oh!
Ils sont arrêtés net et moi j'étais devant, puis j'étais comme OK, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Eux, ils courent plus vite que moi. Et puis finalement, leur maître est arrivé, les a sifflés, ils sont restés là, ils sont assis, puis ça a fini là.
Wow! Chanceux quand même!
Exact. Mais bon, sinon, à part des. Il n'y a pas deux choses vraiment cocasses qui m'arrivent dans mes courses.
Tu vas faire une petite intro de ton défi pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est sûr qu'il va y avoir une petite intro au début, ceux qui l'auraient manqué. Dans le fond, tu vas courir de Vancouver à Montréal. C'est ça le gros défi pour ramasser des fonds pour une cause que je vais revenir plus tard. J'ai lu que tu t'entraînes depuis janvier 2018, donc grosso modo 8-9 mois au jour où qu'on se parle. Puis que tu vas partir en juin 2019. Donc, tu avais environ 18 mois, grosso modo, pour t'entraîner.
C'est ça.
Maintenant, ma question, c'est comment le projet de faire Vancouver-Montréal en courant te vient à l'esprit?
Il m'est venu à l'esprit la première fois que j'ai fait un 10 km. J'ai réalisé que, bon, ben, si tu peux faire 10 km, tu peux probablement faire beaucoup plus. Alors, ça serait le fun de courir à travers un continent.
Wow.
Ça remonte à 11 ans de ça. Fait que c'est resté sur la glace pendant un bout parce qu'évidemment, c'est pas après 10 km qu'on décide d'en courir 5000. Alors, bon, ben, graduellement, les courses ont augmenté, l'entraînement s'est amélioré, ma condition et mon mental s'est augmenté parce que tu peux pas décider de courir 5000 km si t'as pas la tête sur les épaules et tu sais pas qu'est-ce que tu fais.
Ça, c'est certain.
C'est certain. Et il faut que tu aies vécu d'autres difficultés au niveau de ta course pour être capable de te dire, OK, si j'ai pas trop de blessures, si telle chose ou telle chose arrive pas, je suis capable de courir 5000 km. Bon, après ça, c'est resté sur la glace donc pendant presque 8-9 ans. Puis un beau matin, j'ai dit, OK, bon, c'est là que ça se passe. Ça va prendre 18 mois pour m'entraîner pour ça. Alors, 1er janvier 2018, tu pars à cet entraînement-là jusqu'à... Je dirais que l'entraînement va finir début mai. Je vais me donner peut-être une semaine ou deux de repos, ben, façon de parler.
Ouais.
Disons que je ne courrai pas 200 km par semaine, je vais peut-être en courir 100.
OK. Les repos de coureur, c'est généralement ça, la moitié de son volume.
Ouais. Ben, disons que je vais avoir des semaines d'entraînement dans un avenir rapproché de 300-400 km par semaine. Il ne faut pas oublier que, considérant que je vais courir 5000 km, sur un certain nombre de jours, c'est 84 km par jour. C'est deux marathons.
C'est ça.
Exactement deux marathons par jour pendant, je dirais, entre 60 et 70 jours.
Puis à quoi ça ressemble, là, justement, tu dis 300, ton plan d'entraînement pour les 9 prochains mois jusqu'en mai, là, ça ressemble à quoi? C'est présentement, on parle de combien de kilomètres par semaine, puis on va monter jusqu'à combien en volume? Alors,
on va augmenter de 225, qui est mon top pour le moment, à 400.
Puis comment on prévoit faire 400? C'est-tu des journées de, je sais pas, là, 60, 50 le matin, 4 jours semaine, ou on fait 7 jours semaine, 70 km?
Non, c'est très, 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 je dirais, très structuré. Il y a des journées où c'est vraiment 42 deux fois.
Donc, vraiment comme ce que tu vas faire sur le...
Oui, oui. J'arrive à mon objectif de finale d'entraînement, c'est de faire une semaine de 7 jours 84 km chaque jour. Une fois que j'ai fait ça, le reste, c'est plus une question d'entraînement. Une fois que tu le fais pour de vrai, c'est ton corps va lâcher ou ton mental va lâcher. Mais tu sais que tu es capable de faire 7 jours 84 km.
Après, il suffit de le faire 9-10 fois.
Ben, après ça, chaque jour est l'entraînement pour le jour d'après.
Exactement.
Alors, pour l'instant, le maximum, c'est 225. Mais après ça, ça va augmenter. Donc, ça va être des journées de 2 fois 42, 5 jours semaine. Puis après ça, ça va être 7 jours semaine, 2 fois 42, qui est la vraie affaire.
Donc, dans le fond, tu vas vraiment faire des semaines de pratique avant de commencer.
Absolument. Il faut vraiment que tu saches à quoi t'attendre pour y croire à 100%.
Oui, c'est certain.
Il faut que tu saches que ça fait mal comment après une semaine de 500 quelques kilomètres.
Oui, parce que ça ne doit pas être évident. Juste à y penser, en auto, c'est déjà, ça fait mal.
Ben, il y a la phrase stéréotype, je ne conduirai pas aussi loin que ça.
Quand tu annonces à tes proches que tu vas faire ça, c'est quoi leur réaction?
Il y a deux catégories. Il y a la catégorie qui pense que j'ai pas d'affaire à faire ça, que je suis irresponsable, que bon, toutes les choses négatives qu'on dit à propos des coureurs d'endurance. Et puis, il y a des gens qui disent « cool, pourquoi pas? » Il y a des gens qui font d'autres choses. Toi, tu fais ça. Bon, OK, c'est correct. Ça, c'est la minorité des gens dans ma famille.
Et est-ce que tu penses que c'est par jalousie ou justement un manque de on parlait de croire en ces défis. Eux ne croient pas qu'ils seraient capables, donc se transmettre. Raison de traiter quelqu'un d'irresponsable quand il veut simplement vivre son rêve.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de voir plus loin que leur vie quotidienne, routinière, pas extraordinaire, avec aucun événement dont ils pourraient écrire un livre.
Ils se sont résignés à cette vie.
C'est ça. La grande majorité des gens, puis je ne dirais pas nécessairement ma famille sont un exemple de ça, mais je dirais mes parents sont un exemple de ça, pas mon frère et ma sœur. Mais je dirais la grande moyenne des gens vont d'une journée de travail à la prochaine, puis pour le restant de leur jour.
Sans se poser de questions.
De temps en temps, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, ça va être aller en vacances.
Cuba, une semaine.
Mais es-tu capable de faire quelque chose qui vraiment te pousse dans les limites de ce dont tu es capable? Est-ce que tu es capable un jour, dans 20, 30, 40 ans, avec tes petits-enfants, t'asseoir et dire « je vais vous raconter une histoire »?
Parce que notre vie, c'est ça. Hein? En gros, c'est une histoire. Puis c'est quoi qu'on veut raconter quand on va être rendu à la fin? C'est quoi qu'on veut raconter, qu'on veut laisser aux jeunes? Est-ce qu'on veut dire, est-ce que j'ai travaillé toute ma vie dans une boîte puis j'ai mis de l'argent dans mes REER ou j'ai traversé le Canada en courant?
C'est ça. Tu sais, tu peux dire, j'ai fait ça et ça dans la vie, c'était vraiment cool, mais saviez-vous que j'ai fait ça, puis ça prenait tout ce que j'avais appris dans ma vie, tout ce que j'ai fait dans ma vie, la somme de tout ça a été concentrée dans cet événement-là et ça a donné ça.
Ouais.
Fait qu'il y a deux clans. Il y a les gens qui pensent que je suis fou, puis il y a le clan qui disent que ouais, ben c'est vraiment cool. Pourquoi pas?
Mais je suis dans l'autre clan. Je t'encourage à continuer.
Parfait. Donc, tu t'en viens avec moi, là, c'est ça?
Hein? Bien sûr. Je voulais te garder à surprise, mais tu m'as tellement motivé. Je te confirme que d'ici mes 53 ans, je vais traverser le Canada à pied. C'est un rêve que j'avais avant d'entendre parler du tien, d'ailleurs. Je pense que je l'avais écrit en intro, là.
Ouais.
En courant Gaspésie, je me disais, il faut que je traverse un jour, il faut que je traverse le Canada en courant.
Mais le marché, c'est difficile aussi. Hein? C'est pas une blague du tout, le marché. Moi, je te dirais, ça fait probablement peut-être aussi mal, sinon plus, que de courir. Je marche 80 km par semaine, en plus de ma course. Ouais, parce que je suis obligé de cumuler le nombre d'heures sur mes jambes le plus possible sans m'endommager. Fait que je split ça entre course et marche. Je te garantis que le 10 km de marche que je marche tous les jours, il me fait presque aussi mal que courir un 21 km.
Oui, parce qu'il prend quasiment plus de temps aussi.
Et aussi, tu es plus raide. Tes jambes sont beaucoup plus raides. Fait que c'est comme si tu avais des courbatures dans tes jambes.
C'est ça, parce que c'est sûr que courir, les gens, certaines personnes ne savent pas, mais courir, c'est beaucoup plus économique sur le corps parce qu'on utilise le rebond pour se propulser. Parce que quand on marche un autre mouvement.
C'est ça, et c'est pour ça que je recommande souvent à des gens qui commencent la course, je leur dis d'ajouter à leur entraînement de la marche, mais de la marche, constante.
Okay.
Genre, marcher des longues distances. Ben, des longues distances pour certains, c'est 1 km, là, parce qu'il y en a qui utilisent juste leur auto. Mais je dirais, un 5 km de marche, la journée où tu cours pas, c'est une très bonne chose à faire. Si tu as 2 journées de repos, par exemple, ben, sur une de celles-ci, marche un petit peu.
Ouais.
Mais marche avec détermination. Là. On parle pas de faire une promenade.
Non, on marche pour se rendre à quelque part. On marche.
Mais faites pas de la marche comme une compétition de marche.
Je comprends.
Parce que c'est pas les mêmes muscles qui fonctionnent. Puis ça, c'est vraiment comme courir, exactement comme courir. D'ailleurs, les marcheurs de course sont aussi vite que, par exemple, un marcheur mondial, de qualité mondiale, marche plus vite que je cours. Quand je suis à mon top, il marche très, très vite. Là. Il faut vraiment être debout à côté d'eux lorsqu'ils passent pour voir à quelle vitesse ils marchent. Il marche plus vite que ben du monde court.
J'ai lu aussi que pendant ton défi, vous allez tourner un documentaire.
Oui.
Je me demandais, savez-vous l'angle que ça va prendre? Ça va être un peu télé-réalité ou un petit peu plus vraiment documenter tes difficultés? Un petit peu le à quoi ça on va, peut s'attendre?
D'abord, il va y avoir une version journal. Donc, tous les jours, on va poster des affaires sur le web en vidéo puis en texte. Mais le documentaire va être plus un résumé de tout ce qui s'est passé. Je dirais tous les faits saillants, okay, ou les choses intéressantes. Alors, je dirais, il n'y aura pas de focus sur la cause, parce que c'est une fois qu'on est en train de courir, c'est plus ça. Là.
Non, c'est vraiment le coureur, c'est la traversée.
Ouais. La cause est en ajout à ça, à des endroits où je vais spécifier, par exemple, si par exemple quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui dans ma course, j'ai été capable de surmonter parce que j'ai été capable de surmonter d'autres choses dans ma vie, puis l'entraînement de ça a donné ça, oui peut-être. Mais le focus, ce sera la course et l'événement lui-même. Donc, on va relater tout ce qui se passe dans un événement comme ça, comme par exemple toute la partie physique, mentale, la nourriture, comment l'équipe se comporte, comment est-ce que je me fais ravitailler, est-ce qu'il y a eu un grizzly qui s'est mis en milieu de la route puis j'étais obligé d'attendre, puis qu'est-ce que ça a donné. Tous les détails intéressants. Ça va être un documentaire, le fun, et on espère que ça va... J'aime pas trop le mot motivation, parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, mais je dirais que ça serait vraiment cool si ça stimulait les gens à décider de faire quelque chose de vraiment différent qui les sorte de leur zone de confort. Ça ne veut pas dire nécessairement faire un transcontinental en course. Ça peut vouloir dire peut-être faire quelque chose que eux considèrent extraordinaire.
Quelque chose qui les excite. Au lieu d'utiliser motivation, on confond souvent motivation et excitation. Donc, quelque chose qui les excite.
Vraiment leur dire qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire à leur niveau. Pour moi, 5000 km, c'est extraordinaire.
Ben, c'est clair.
Pour Scott Jurek, ça ne l'est peut-être pas.
C'est ça, il y a des gens de d'autres niveaux, c'est toujours à son niveau, de faire quelque chose à son niveau d'extraordinaire.
Mais l'important, ce n'est pas de se comparer à d'autres en termes d'extraordinaire. C'est soit ton propre héros, soit ta propre inspiration. Attends pas après que les autres t'inspirent.
Exactement.
Toi, aujourd'hui, ce que tu as fait devrait t'inspirer demain. Donc, sois ton propre héros. C'est ça. Donc, si tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, choisis quelque chose, prends un objectif, décide d'un objectif, mets ce que ça prend derrière pour le réussir. Et une fois que tu l'as réussi, c'est bon. Maintenant, tu peux passer au prochain.
Maintenant qu'on a parlé du défi, à ton défi, tu nous as glissé un mot, s'adresse à une cause. J'aimerais ça que tu nous parles un petit topo sur la cause que tu veux, qui est de combattre toutes les formes d'abus chez les enfants.
Cette cause est très spécifique. Elle n'est pas populaire. Il y a beaucoup de gens qui lèvent un sourcil lorsque je parle de cette cause-là. J'aurais pu prendre la cause pour sauver les chiots en Afrique, et puis ça, il n'y a pas de problème. J'aurais 2 millions de viewers sans problème. Le point là-dedans, c'est que l'abus chez les enfants, c'est tellement tabou, c'est tellement répandu, c'est tellement dans une zone grise qu'on ne sait pas si nous-mêmes, on en est un. Il n'y a pas de définition vraiment concrète de c'est quoi l'abus. Mais si je prends par exemple des statistiques américaines, aux États-Unis, il y en a 3 millions par an, 3 points, quelque chose, millions par année qui sont reportés. Mais celles qui ne sont pas reportées, si tu les ajoutes à celles-ci, c'est 9 et quelques millions.
Quand on parle de reporter, c'est des gens qui portent plainte, qui vont au poste de police.
Ouais.
C'est comme ça qu'on détermine un rapport.
Ou qui ont été rapportés par des voisins ou quelque chose comme ça. Okay. Ça représente 1 à toutes les 10 secondes. Les gens ne se rendent juste pas compte à quel point leur voisin pourrait être une victime. Et le problème, c'est que cette cause-là, l'abus envers les enfants, forge leur futur. C'est comme si on les maltraitait maintenant, mais on les maltraitait à répétition pour le restant de leur vie. Même si les parents sont, ou les gens qui abusent ces enfants-là sont morts, ils continuent à les abuser dans leur futur.
C'est sûr que les effets de l'abus ou de la violence en jeune âge se répercutent à longueur de la vie, on le sait. Là, n'importe qui a subi des traumatismes jeunes, c'est certain que toute sa vie, ça le suit. Il va falloir qu'il travaille très fort pour s'en sortir. Donc, si on peut les éliminer à la base, c'est encore mieux que de travailler en amont quand ils sont rendus vieux et essayer de les réparer.
C'est ça, mais le problème qu'on a dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas aux gens, aux enfants, c'est quoi être parent plus tard. Il n'y a pas de formation à être parent. C'est probablement la première discipline où les gens sont jetés directement dans le feu de l'action en disant « Ah, ben, t'as un enfant, débrouille-toi. » Puis là, il y en a qui se débrouillent comme ils peuvent. Il y en a qui se débrouillent super bien.
Oui.
Mais il y en a qui se débrouillent super mal.
Est-ce que la cause va investir dans l'éducation?
Moi, je supporte UNICEF.
Okay.
Puis UNICEF ont des programmes qu'ils ont à travers le monde. Leur focus est, je dirais, habituellement, c'est à partout au monde, mais là, ils ont créé des programmes canadiens. C'est cette année que ça a été créé. Ils ont créé des programmes canadiens pour supporter les enfants au Canada, pour avoir un peu... Ben, eux, ils sont plus dans la protection. Ils sont rendus comme, OK, là, il faut protéger les enfants. Mais de plus en plus, c'est sûr que si on veut les protéger, mieux vaut travailler sur la prévention, donc l'éducation. Moi, je dis qu'il devrait y avoir un manuel sur certaines choses. OK, l'abus envers les enfants, c'est ça. Voici clairement ce que c'est. Si tu fais ça, c'est pas correct. Par contre, quand tu te sens poussé à vouloir faire ces choses-là, voici comment faire pour passer à côté ou pour, disons, te calmer de ça avant que tu fasses quelque chose d'irréparable.
Ce qui se rapporte à l'intelligence émotionnelle qu'on n'a aucun cours non plus là-dessus dans notre cursus académique. Donc, l'instant entre l'impulsion et passer à l'action, parce que des fois, c'est juste ça. C'est juste de prendre une bonne pause, puis ensuite, on est correct.
Exactement. Et tu sais, on dit souvent, dans la vie, on n'a pas de contrôle sur rien. Mais moi, je dis, on a du contrôle au moins sur soi. Si tu n'es pas capable de baisser ta main lorsque tu vas vouloir frapper ton enfant, tu as un problème.
C'est clair.
Bon, ça demande d'exercer du contrôle. Ouais. La course... c'est aussi quelque chose où tu exerces du contrôle. C'est toi qui as le contrôle là-dessus. Fait que pratique ton contrôle, ne serait-ce qu'avec la course, et tu vas savoir que tu es capable de contrôler à d'autres endroits. Parce que vraiment, à la course, tu es en contrôle de tout ce que tu fais. À moins que tu aies une auto qui te roule dessus, qui est passée sur une rouge, le reste, c'est ton choix, c'est ton contrôle, c'est tes décisions.
Juste pour faire une petite parenthèse sur le guide des parents, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, il y a Naître et grandir aujourd'hui, quel goût. Qui est un organisme paragouvernemental financé par une famille au Québec, qui donne beaucoup, beaucoup d'informations, justement, qui sensibilise beaucoup. Fait que je voudrais juste comme spécifier leur bon travail parce que, comme ma mère elle disait tout le temps, on n'a pas de guide pour élever des enfants. Aujourd'hui, ils nous donnent un beau livre avant la naissance qui nous explique quand même beaucoup de concepts. Fait que je pense qu'il y a quand même une certaine démarche autant du gouvernement, une volonté du moins à essayer d'éduquer justement l'alimentation, la violence, tout ce qui se rapporte à l'enfant. Ils ont même une belle newsletter qui te suit à toutes les semaines.
Ah oui?
Oui. Donc, toutes les semaines, ils disent « Votre enfant a trois mois et six semaines. Son néocortex se développe de telle façon. S'il est en train de péter une crise, c'est parce qu'il y a trop d'informations qui rentrent en même temps. C'est là qu'il explose. » Ils t'expliquent des concepts de base comme ça tout au long. Donc, je pense qu'il y a quand même, au moins, on a un espoir, on a une lueur. Il y a une certaine volonté d'améliorer ça. C'est quand même
c'est bon.
Très intéressant.
Ben, je checkerai ça pour voir de quoi il en retourne. C'est vrai.
Donc, parce qu'ils sensibilisent déjà au bébé secoué, des techniques comment justement, tu sais, ils expliquent que c'est normal qu'un parent soit à bout. Si jamais on est à bout, on le dépose dans son berceau, on s'en va plus loin, on prend le temps de respirer, on se coupe un bébé. Donc, ils te conscientisent et donnent quand même certains trucs.
Mais souvent, je fais l'analogie, je veux dire, si ton enfant fait quelque chose qui t'écœure et que tu le bats, par exemple, si tu es au travail et que quelqu'un dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas-tu te mettre à le battre? Fais l'analogie, là. Est-ce que ces deux mondes-là t'agissent de la même façon? Les gens font beaucoup plus attention à comment ils gèrent leur relation avec des gens avec qui ils travaillent qu'avec leurs propres enfants.
Avec des étrangers plutôt que...
Oui, c'est ça. C'est comme si tu as une switch qui dit « OK, maintenant, je peux être violent avec mon enfant, mais au bureau, j'ose pas parce que les répercussions sont graves, je pourrais perdre ma job. »
C'est ça, c'est que les conséquences sont plus imminentes au travail dans le fond.
Exact. Il y a moins de tolérance au travail qu'à la maison, je dirais.
Ce défi-là, en gros, tu le fais entre autres pour toi et pour supporter cette cause-là.
C'est ça.
Concrètement, si tu vas ramasser des dons, comment tu veux...
Ben, c'est des dons qui sont donnés directement à UNICEF. Donc, sur mon site web, les gens, s'ils décident de faire un don, ils cliquent sur « Faire un don », ça les amène directement chez UNICEF. Ça passe même pas par moi. 100% de ce qui est collecté s'en va à UNICEF. Et pour donner un ordre de grandeur aux gens, pour qui ne se posent pas trop de questions, là. J'ai fait la demande à UNICEF, j'ai dit, OK, sur une pièce, un dollar qui est donné, combien va dans des programmes? C'est 70 cents. Donc, comme ça, les gens, ils arrêteront de me poser la question. Ça arrive souvent qu'on me dit, ouais, si je te donne 100 pièces, combien s'en vont dans les salaires? Je ne le sais pas, mais 70 $ s'en vont dans les programmes.
C'est ça. Donc, il y a un 30% qui garde pour tout ce qui est les salaires, la gestion et aussi la publicité. Des fois, les gens oublient les causes, ont besoin d'argent pour s'afficher. Mm-hmm. Donc, quand ils passent une annonce à la télé, ça coûte des sous.
Ce sont des organisations à but non lucratif mais il faut qu'elles opèrent.
C'est exactement. Il faut qu'il y ait des fonds pour opérer.
C'est ça, si tu n'as personne pour opérer, tu n'as plus de cause. La personne ne va rien faire. Fait que oui, il faut payer pour ce monde-là. Moi, je dirais du 30-70, c'est pas si pire. Il y a des gens, c'est plus du 80-20, là, puis du côté opérationnel. Ouais. Mais au moins chez UNICEF, qui est quand même qui a une réputation mondiale pour du travail, de l'excellent travail à travers le monde, du 30-70 du côté programme, c'est vraiment très, très bon. Et d'ailleurs, justement, pour parler de courses et de UNICEF, l'autre fois, je parlais avec justement Eliud Kipchoge, qui a battu le record du monde du marathon ce week-end.
À Berlin.
Ouais, il disait, je chattais avec lui sur LinkedIn, puis il m'a dit « I love UNICEF ». Puis okay. Lui, il est du Kenya et il est multimillionnaire, mais il sait ce que l'UNICEF fait dans ces pays-là. Ça fait que c'est pas un Caucasien de la Suède là, qui parle. Là. C'est quelqu'un du Kenya qui dit que le travail d'UNICEF est excellent.
C'est excellent, qu'ils font du bon travail.
Exact.
Donc, à la fin, on va donner ton site web, on pourra aller faire un don si la cause nous intéresse. Mm-hmm. Maintenant, quand on se prépare pour un défi comme ça, là, je veux pas rentrer dans ton documentaire parce que je sais que tu nous as dit que tu allais en parler dans ton documentaire, ce que je savais pas avant l'entrevue. Peut-être plus comme ton idée, un ébauche de ce qu'on pense. Premièrement, ça prend une équipe. J'imagine que c'est des gens qui tournent. Tu vas avoir tout le temps quelqu'un avec toi qui va être proche, qui va faire la route avec toi. J'imagine qu'il te suit en auto.
Ouais. Donc, théoriquement, si tout se passe bien, je vais avoir une équipe de support et une équipe de tournage. Donc, l'équipe de support est là pour, comme le mot se dit, pour me supporter. Donc, me ravitailler. Parce que c'est sûr que je pourrais courir toute la journée avec tout ce que j'ai besoin. Mais ça donne quoi de m'ajouter du poids pour rien?
Exactement.
Donc, à tous les demi-marathons, il va y avoir quelqu'un qui va avoir ce que j'ai besoin pour faire le prochain demi-marathon, puis le troisième et le quatrième. En milieu de journée, plutôt, après les deux premiers demi-marathons, je vais m'arrêter un petit peu pour manger de la vraie nourriture parce que au niveau de ma nutrition, je fais un mix de nourriture, je dirais, comme des gels, des bars, des choses comme ça, mais aussi de la vraie nourriture parce que tu peux pas perdre 9000 à 10 000 calories par jour puis juste manger des gels, on s'entend. Et tu peux pas juste boire la même affaire tout le temps. Faut faire des combinaisons. Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième équipe, c'est celle de tournage. Donc, c'est deux personnes. Le directeur photo et son assistant qui filment. Ils filment tout ce qui est intéressant de mon côté à moi, puis ils filment tout ce qui est intéressant de ce qu'ils voient. L'idée, c'est pas de me voir pendant 45 minutes courir. Non? L'idée, c'est de voir de la course, mais aussi les contextes. Donc, les panoramas, les gens qu'on rencontre sur la route, les montagnes, les détails importants d'un truc comme ça. Parce que si tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, c'est pas juste le courir, c'est tout ce que tu vis, toute l'expérience que tu as pendant ce temps-là. Et c'est ça qu'on veut rapporter. C'est pas juste un gars qui met un pas devant l'autre tout le temps. Là.
Non, c'est ça. C'est pas 5000 km sur un tapis. C'est quand même la traversée d'un des plus grands pays du monde.
C'est ça. Donc l'idée, c'est que tu regardes ce documentaire, tu apprends des trucs à tous les niveaux, au niveau de la course, parce qu'on va parler de course en détail, mais on va les apprendre dans le contexte. Donc, à la fin de la journée, quand j'arrive au campement, OK, c'est comment est-ce que je fais pour récupérer pour le lendemain? C'est quoi la routine du matin en partant? C'est quoi la routine pendant que je suis en train de courir? C'est quoi la checklist pour que je sois capable de vraiment passer chaque étape sans trop de difficultés? Parce que ça prend un plan de match. Si tu fais ça sans plan de match, c'est fini, tu ne le fais pas.
Ça, c'est certain.
C'est pas comme aller faire un 21 km sur la montagne. Tu as besoin de planifier chaque chose que tu fais parce que tu as tellement d'inconnus que tu n'as pas prévu. Fais de la place au moins à ces inconnus-là par gérer ce que tu peux déjà gérer.
Exactement. Genre la partie que tu as du contrôle dessus au maximum.
C'est ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est que le documentaire apprenne aux gens, bon, ben regarde, t'as pas besoin de faire 5 km pour courir puis avoir du fun, mais regarde, si tu faisais quelque chose qui est peut-être un 60, un 80 km ou même un 100 km, regarde ce que ça donne. Si tu cours de Montréal à, je sais pas moi, Saint-Sauveur, t'as quand même besoin d'avoir un plan. Voici quelques petites affaires que moi, j'ai eu à gérer pendant 2 jours de course qui représentent ta course à toi. Donc, c'est éducatif, c'est stimulant. Et aussi, tu vois les mauvais côtés. Parce que c'est sûr que je n'aurai pas des journées toutes roses tous les jours. Je vais avoir des blessures, je vais avoir des défis. L'idée, c'est de savoir ton mental, il est comment pour pouvoir gérer ces défis-là? Qu'est-ce qui arrive si tu te blesses, là?
Justement, c'était une de mes questions, les blessures. Est-ce que tu as un spécialiste, un ostéo, un chiro,
non.
Quelqu'un qui va être pas loin? Non, ça, tu
non.
T'as pas personne de médical avec toi là, pour te surveiller ou te supporter.
Ben, si le budget était d'un demi-million, oui, mais c'est pas le cas. Ces gens-là, ils font rien gratuitement. Si tu prends un expert, tu payes les experts.
C'est certain.
Mais le truc, c'est que, bon, mis à part le premier 1100 et quelques kilomètres qui se passent dans les Rocheuses, le reste, tu peux trouver un médecin pas trop loin.
Oui.
Disons à 100 km. Là. Puis 100 km, c'est quoi? Une journée de course, là, à peu près. Un peu plus qu'une journée de course. J'ai couru 100 km sur un plantar fasciitis. En anglais, en français, je ne sais pas c'est quoi. Fasciite plantaire ou un truc comme ça. Là. J'ai couru mon 100 km dessus. Là. Fait que je peux tolérer un certain montant de douleur jusqu'à peut-être 100 km. Fait que je trouverai quelqu'un. Là. Même un vétérinaire va pouvoir me conseiller quelqu'un. Là. Fait que
je comprends. Puis pour toi, c'est important que tu n'arrêtes pas de courir. Tu ne pourrais pas prendre une pause, tu te blesses, ton équipe de support t'amène en voiture jusqu'à un spécialiste et te ramène au point où tu as quitté, puis tu continues.
Ouais. Ben là, le plan de match, c'est que chaque jour que je finis la course, la journée, je fais une marque sur là où je suis. Je prends un repère GPS précis, pas celui de ma montre, celui d'un appareil vraiment de grade professionnel qui va déterminer exactement où j'ai arrêté. Puis le lendemain, peu importe où va être le campement, on revient exactement à ce spot-là. Puis il faut que je voie ma marque.
Je comprends.
Et je repars de la marque. Donc, si je suis blessé, admettons que je me fasse, je sais pas, quelque chose, quoi que ce soit de gérable, et qu'il me faut un médecin, ben, je vais être transporté. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire.
Je comprends.
Et puis, je vais revenir à cette marque-là.
Donc,
alors, c'est ça, il n'y aura pas de jour off, à moins que je ne sois juste pas capable de me tenir debout.
OK, c'est ça, la blessure soit trop grande. Mm. Ça m'amène à la prochaine question. Donc, météo, orage, c'est sûr que tu le fais l'été, là, mais orage de torrentiel, on fait 84 km pareil.
Oui, le seul défi qu'il y aurait, c'est dans les plaines. Un orage dans les plaines avec des éclairs, bah. Fait que ce que tu fais, c'est que les véhicules vont s'arrêter.
Okay.
Je vais m'asseoir dans le véhicule, je vais attendre que ça passe et je repars de là. Mais il n'y a aucune question d'arrêter puis de rentrer à l'hôtel. Puis non.
Il n'y a aucun repos possible. C'est impossible qu'il y ait une journée.
Repos, c'est la nuit. Quand j'arrive dans des grandes villes, donc dans les 8 grandes villes, ben, pas la première parce que c'est de là que je pars, mais disons les 7 prochaines villes, grandes villes, j'ai des arrêts pour du média. Pour des opérations de relations publiques. Donc, admettons que j'arrive à Calgary, puis j'ai juste couvert 30 km cette journée-là, je vais prendre le reste de la journée off parce que j'ai des fonctions. J'ai des choses qu'il faut que je fasse. Ou peut-être des courses avec des magasins de courses qui vont amener leurs coureurs. On va aller se faire un petit 10-15, là, vite, là. Puis après ça, j'aurai fait mon activité. Mais après ça, on recommence à courir 84 km par jour jusqu'à la prochaine grande ville. Donc, il y a 7 stops comme ça.
Fait que c'est 7 stops-là, mais ça reste, si tu prends pas vraiment un repos, c'est juste que tu as du travail à faire.
C'est ça. Il y a des activités avec UNICEF, avec les médias locaux, puis les magasins de courses.
Exactement. C'est sûr que ces gens-là veulent voir leur héros, leur nouveau héros national passer, prendre le temps de le saluer.
Genre.
Il y en a-tu qui t'ont donné des surnoms comme Forrest Gump ou.
Celui qui est le plus utilisé à date des gens que je connais, c'est Iron Man. Parce que je m'étais entraîné il y a quelques années pour en faire un. Puis je ne l'ai jamais fait officiellement parce que deux ou trois semaines avant la compétition, le premier tremblant qu'il y a eu, j'ai fracturé deux orteils dans un nid de poule. On est à Montréal, on s'entend que c'est chose commune. Et je n'ai pas pu faire la course. Fait que tout le monde me surnommait, tous les gens que je connaissais dans mon coin là, me surnommaient ça, mais finalement, j'en ai jamais fait un vrai. Mais un beau matin, je me suis dit que j'en ai fait un tout seul.
C'est ça, parce que tu ne fais pas d'événement, donc tu as décidé d'en faire un tout seul.
Fait que c'est ça, je me suis levé, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis rentré le soir, j'étais brûlé, puis j'ai dit « OK, check ».
OK, faire un Ironman tout seul.
Cool. Parce que le fait de faire le vrai ou pas, c'est la distance qui compte.
Oui, c'est l'épreuve.
J'ai pas besoin d'une médaille, d'un T-shirt, de finissant, puis ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment pas, là, de faire une course, puis avoir un T-shirt de finissant, là, non.
Juste une parenthèse, moi, ce que j'aime de ces événements-là, c'est la date de tombée. C'est moins un deadline. Non, parce que je peux repousser toute ma vie, dire oh, je vais en faire un tout seul un moment donné, mais ces événements-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une date et cette date-là, on le fait, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'on soit moins prêt, qu'on le fait. T'sais.
Mais curieusement, le fait que tu soulèves le point d'avoir une date ou un objectif, c'est pas mal intéressant parce que je te dirais que moi, dans mon cas, si j'ai pas d'objectif, j'ai beaucoup de misère à m'entraîner sérieusement. Donc, après avoir, par exemple, j'avais mis un objectif de courir 100 km. Je m'étais entraîné vraiment de la bonne manière, assidûment et tout pour le réussir. Puis deux jours plus tard, je me suis posé la question, OK, maintenant c'est fait, et puis quoi? C'est quoi la prochaine affaire? Fait que pendant quelques semaines, j'avais pas vraiment d'objectif. Fait que j'étais comme un peu déprimé, là. Fait que je courais juste pour me maintenir, mais rien de plus. Ah, ben j'en ai pas. Mais tout d'un coup, je me suis aperçu que c'était difficile de m'entraîner sérieusement si j'avais pas d'objectif. Puis moi, courir juste pour courir, genre juste pour aller mettre du millage, c'est pas intéressant.
C'est ça. Ça prend un objectif. Seulement toi, tu les détermines toi-même. Tu es assez structuré pour les déterminer toi-même plutôt que de prendre un événement externe.
Exact. Et mon prochain objectif ne commençait qu'au 1er janvier. Fait que là, j'étais en septembre. Et là, il a fallu que je deal avec ça de octobre, novembre et décembre à ne pas avoir vraiment d'objectif, juste maintenir ma forme. Là. Je pense que c'était ce qui était le plus dur mentalement.
C'est le plus long de ne pas avoir d'objectif.
Exact.
Parce que là, on ne croit plus ou non plus. Hein? On finit par. Quand on parlait de croire en ce qu'on veut faire, là, on n'a plus rien à faire. Donc, pas qu'on n'y croit plus, mais on n'a rien à croire.
Ben, c'est que tu n'as plus rien qui te stimule.
C'est ça. Plus rien qui t'excite.
Tu cours pour te tenir en forme parce que tu es rendu un sportif, disons, pour ne pas dire un athlète, mais tu n'as pas d'objectif précis. Fait que tu ne travailles pas vers quelque chose, tu travailles juste ta forme pour la maintenir, pour ne pas perdre trop de fitness.
Exactement.
Mais là, à partir du 1er janvier, là, j'étais parti, j'étais crinqué du jour au lendemain parce que j'avais un objectif maintenant sur le calendrier.
Puis là, et là, tu travaillais pour cet objectif-là.
Exact.
Comment on choisit les routes? La question peut sembler banale parce que j'imagine que tu ne vas pas courir sur le bord de la Transcanadienne.
Curieusement, oui. Mais, okay. pas à tous les endroits. Okay. La Transcanadienne, là, c'est évidemment une autoroute avec de multiples voies sur lesquelles tu n'as pas le droit de courir.
Exactement.
Mais quand tu es dans le fin fond du fin fond, là, la Transcanadienne, là, c'est moins large, c'est quasiment aussi large qu'un sentier qui a deux voies. Là.
Oui, ça, j'ai beaucoup d'amis qui ont traversé le Canada. Certains endroits, ça croise. Donc...
Ouais, c'est un peu comme la 117, où tu peux courir sur des bas-côtés. Tu as des bas-côtés pour pouvoir courir. Alors, certaines fois, ils sont en asphalte, mais certaines fois, ils sont en... Certains endroits, c'est de la gravelle et quasiment du sentier. Là. Donc, je suis obligé de prendre 3 sets de chaussures avec moi. Donc, des chaussures pour la route pure, des chaussures pour quand c'est du gravier ou des choses comme ça, puis des chaussures de trail quand c'est... Ben, des vrais sentiers là, avec des roches puis des affaires qui sortent par tous les bords, tous les côtés. Là. Et il se peut que des fois, j'ai besoin de prendre des détours parce qu'on sait qu'on est dans le monde de la construction là, au Canada. Fait qu'une voie qui est ouverte un jour, l'est pas le lendemain nécessairement. Fait que si je dois faire un détour en passant par-dessus une montagne, je suis mieux d'avoir les bonnes chaussures parce que c'est pas de l'asphalte qu'il y a là.
Puis ça, est-ce que tu les traînes avec toi ou c'est ton équipe de sport qui va te les amener au besoin?
Ah oui, j'ai oublié de te dire un truc intéressant. Si jamais j'ai pas les finances pour l'équipe, je le cours en solo.
OK. Ça, je l'ai lu, mais c'est vrai que nos auditeurs n'étaient pas au courant. Donc là, tu n'as pas d'équipe. Tu ne te ramasses pas d'équipe.
Je ne me ramasse pas d'équipe et là, c'est le rough du rough. Là. Mais pour revenir à ce qu'on disait, l'équipe va supporter toute la partie logistique. Ce que j'ai sur moi pendant ma journée, c'est une veste avec toute la partie hydratation et un kit au cas où j'ai un accident. Ce que j'ai besoin pour me défendre. Parce qu'on te passe à travers quand même, il y a beaucoup de vie sauvage. Je vais avoir quelques petits éléments comme des barres, des gels et tout pour me nourrir au cas où. Et peut-être une sandwich au cas où je dois attendre. Un pont qui ne se lève pas ou j'attends après quelque chose. Bon, je peux toujours me nourrir en même temps. Mais je dirais que ça va être le maximum de ce que je vais transporter sur moi. Le reste est dans les véhicules et je m'équipe en fonction de ce qui arrive. Donc, le matin, quand je pars, ben, je sais que le prochain 21 va être sur tel genre de route. Alors, je suis équipé pour. Si, par exemple, on change de décor, ben là, je dois changer l'équipement. Ça dépend. C'est peut-être les shorts que je vais porter vont être différentes. Peut-être que les chaussures vont être différentes. Tout dépend du terrain et de ce qu'on s'attend à avoir.
Et là, l'équipe vient te ravitailler, grosso modo.
Ouais. L'équipe est briefée d'avance. Ils ont on aura pratiqué. Parce qu'on on va conduire de Montréal à Vancouver.
Donc, OK, vous partez dans l'autre sens en auto.
On va faire de la pratique pendant le voyage d'aller pour que lorsqu'on part de Vancouver, il n'y a aucune inconnue.
Je
on va dire, OK, bon, je vais aller faire une petite course, là. Puis, arrivé dans 10 km, vous allez me passer ce que j'ai besoin. Alors, j'ai besoin de ça, ça.
Ça ne sera pas improvisé. C'est pas à Vancouver, on décide sur le fly.
Ouais, c'est ça.
Là, on va vraiment être bien. On est organisé, on le fait dans l'autre sens, on est entraîné.
C'est ça. Donc, ça, c'est ce que l'équipe va faire. C'est leur job numéro un. C'est de s'occuper de me ravitailler sans que je perde trop de temps et de setter le camp le soir.
C'est quoi, quand tu parles du camp, ça va vraiment tout le temps être une tente ou comment ça se passe?
Ça va être des tentes parce que, comme je dis, c'est pas à chaque 84 km qu'il y a un motel. Là.
Non, c'est ça.
Donc, il y a des journées, il y a peut-être des fois où ça va être pendant une semaine, 10 jours où il n'y aura rien. Puis à un moment donné, si on se trouve à un hôtel, on va s'en prendre un parce que bon, c'est le temps de dormir dans un vrai lit puis de prendre une vraie douche.
Oui, effectivement.
Parce que ouais, ça peut être un défi, ça aussi. Puis, mais sinon, si je le cours en solo, c'est la vraie affaire.
Oui, non, là, mais en solo, mettons le cas scénario que tu es en solo, tu as un gros sac à dos sur le dos, puis tu cours avec le poids.
Je suis en train d'étudier la question. J'ai observé des gens qui ont fait des trucs comme ça en poussant quelque chose, en mettant tout leur stock dedans, ou porter un sac. Le truc, c'est que quand tu portes un sac qui est trop grand, trop lourd, ta forme, ta posture de course n'est plus la même.
C'est sûr.
Et obligatoirement, tu te blesses. Pourquoi? Parce que tu compenses à des endroits que tu n'étais pas prêt à utiliser, à des muscles que tu n'étais pas prêt à utiliser nécessairement. Là, ils vont te dire, ouais, mais tu aurais pu t'entraîner pour. Oui, je comprends, mais je ne peux pas m'entraîner pour les deux à la fois. Fait que je m'entraîne pour le meilleur scénario, puis le deuxième scénario, c'est dans ma tête que ça va se passer. Donc, l'idée, c'est où je vais avoir un truc à pousser que je suis en train d'évaluer ou que je le ferai construire, ou je le construirai moi-même, on verra. Où je mets tout mon stock, puis je me débrouille avec ça. Donc, quelques kits de course, ma bouffe pour la journée, puis ce que je trouve sur la route. Parce que là, la nutrition n'est plus la même non plus là, quand tu cours en solo. C'est la nourriture de dépanneur. Là. Tu transportes ce que tu trouves. Puis, si tu tombes dans un marché extérieur, tu achètes des vrais produits, mais le trois quarts du temps, tu vas d'un dépanneur à l'autre quasiment. C'est pas le fun, ça.
As-tu envisagé la possibilité de peut-être faire collaborer des gens tout le long? C'est sûr, moi, si je savais que tu vas passer dans ma région, je serais prêt à prendre une demi-journée pour aller te ravitailler puis tu sais, passer à faire un espèce de flambeau comme ça.
Dans le dernier mille de mon entraînement, peut-être que je vais faire un appel à des gens, surtout peut-être des magasins de courses dans certaines villes ou des certains magasins pour dire, bon, ben voilà ce que je fais. Est-ce que vous pensez que quand je passe à votre magasin, vous pouvez me ravitailler là plutôt que je transporte tout mon stock avec moi? On va voir. Ou peut-être je vais avoir des drop bags dans des endroits que j'aurais envoyé par la poste d'avance. Ça, faut que je regarde là. Parce que si j'ai les bons commanditaires, le bon financement, tout se règle.
Oh oui, c'est certain. C'est certain. Mais... Et je te souhaite, j'y crois que tu peux l'avoir. Donc, je te souhaite d'y croire. Je suis certain que tu vas avoir le financement. Je parlais plus en cas de catastrophe ou quelqu'un qui se dit justement j'aurais jamais de commanditaire. Comment on pourrait contrer ça?
Ben, je te dirais que c'est fort possible que les commanditaires se fassent rares parce qu'on dirait que les commanditaires veulent des héros avec des médailles. Mais ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que les gens normaux, oui, peuvent être inspirés, par exemple, par Usain Bolt ou des champions comme ça. Mais la probabilité qu'ils essayent même d'accomplir la moitié du dixième de ce qu'ils ont fait est complètement infime. C'est impossible. Alors, ça prend des gens normaux qui font quelque chose d'extraordinaire pour stimuler les gens normaux. T'sais. Fait qu'un commanditaire a plus... J'irais à plus d'avantages à commanditer quelqu'un comme moi qui peut inspirer plein de monde à faire des choses extraordinaires que quelqu'un qui est intouchable.
Non, c'est certain que même si je porte des chandails Nike, je ne viendrai jamais un golfeur comme Tiger Woods.
La question, c'est est-ce que tu as acheté Nike parce que c'était Tiger Woods? Parce que le retour sur investissement des millions qu'ils investissent dans un athlète, y a-t-il quelqu'un qui a pris le temps de mesurer est-ce que c'est vraiment parce que Bolt utilise Puma que tout le monde achète des Pumas?
Effectivement, c'est très dur, mais je pense qu'à ce niveau-là, il parle plus de brand awareness. Je sais que tu es un gars de marketing, mais c'est plus d'avoir de l'exposure à télé. Justement, quand il reçoit sa médaille, on voit le logo.
Ça, c'est correct.
C'est ça. Plus que les retombées économiques, c'est plus d'être présent à gauche, à droite.
Mais donc, c'est ça. Si je n'ai pas de commanditaire, effectivement, ça va être comme genre être un itinérant pendant 5000 kilomètres pendant 60 jours.
Ouais, ça sonne quand même un beau défi. Ça sonne un beau défi. Justement, en parlant de commanditaire, j'aimerais que tu nous décrives à quoi ressemble ton commanditaire idéal.
Mon commanditaire idéal est quelqu'un qui a de la vision, qui va plus loin qu'un retour sur investissement immédiat. OK? Quand tu commandites un événement qui dure 2 jours, là, ça, c'est correct. Je comprends que ça te prend quelque chose d'immédiat. Mais quand tu commandites un événement qui va durer 2 mois, avec lequel tu vas pouvoir faire des activités, tu vas pouvoir interagir avec tes prospects pendant 2 mois de temps. Imagine la campagne que tu peux faire de sensibilisation à tes produits pendant 60 jours où c'est toi la vedette dans cet événement-là en termes de commanditaire, de commandite. Ça, tu peux parler d'un vrai retour sur investissement, mais plus à long terme, parce que là, on est en train de sensibiliser les gens à ton produit, les éduquer, les convaincre à l'acheter et après ça, de conclure et de les transformer plus tard en ambassadeurs de ta marque. Ça, là, c'est le process idéal pour un commanditaire qui a de l'allure. Donc, par exemple, si je travaillais avec une grosse compagnie de télécom, ben, quand tu regardes ces 5 points-là, c'est pas mal leur approche. Quand tu regardes, par exemple, l'approche de certains manufacturiers de vêtements, c'est la leur. Par contre, il y en a d'autres qui sont très, 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 étroits d'esprit. Et donc, eux, leur retour sur investissement, c'est comme, OK, là, ça me donne quoi tout de suite? Mais... Alors, ça prend un commanditaire avec de la vision, puis qui est là pour le long terme. Parce que ce n'est pas le seul événement que je vais vouloir faire.
Ton type d'événement que tu veux faire, si je comprends bien, tu vas quand même te déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, on peut créer un petit peu comme le défi de Pierre Lavoie qui s'arrête dans plusieurs villes et que les gens attendent. Mm-hmm. À quelque part, je veux dire, les gens intéressés par ton défi vont t'attendre dans les villes.
En général, oui. En théorie, oui. J'ai quelqu'un sur l'équipe qui s'occupe des relations publiques. Donc, sur le chemin, elle va s'assurer de parler avec les bonnes personnes pour rallier un peu de monde, au moins aux lignes d'arrivée ou dans les événements de course avec des groupes de gens. Donc, oui, ça va. Puis, évidemment, la commandite au niveau des vêtements, des chaussures, des choses comme ça, c'est bien important parce que, bon, c'est quand même ça qu'ils voient sur toi, là. Dans leur tête à eux, ces produits te permettent de réussir. Ça a l'air de ça. Là, tu regardes ça de base, ils regardent la paire de chaussures et disent, OK, c'est ça, c'est la chaussure qui lui a permis de faire ça.
Ah, c'est certain.
N'importe quelle chaussure, on va être capable de le faire, mais c'est la chaussure qu'il porte, lui.
Bon. C'est certain. Écoute, moi, quand j'avais été acheter des lunettes de vision, le vendeur, dans le temps, il me parlait de Jean-Luc Brassard, que c'était les hauts-clés que Jean-Luc Brassard portait quand il a gagné la médaille. Donc, mais on parle de lunettes de vision, là, ça n'a rien à voir avec ses talents de sportif.
Ben oui, exactement. Donc,
c'est ce qu'on disait, par contre, hein, c'est les lunettes à Jean-Luc Brassard.
C'est comme le gars qui s'en va dans un magasin de sport puis qui s'achète les shorts de Rafael Nadal, puis la raquette de l'autre, puis les chaussures du troisième, puis il prend quand même 6-0, 6-0, tu sais. Alors, c'est pas parce que tu as ça que tu vas réussir, mais dans la tête des consommateurs, c'est la chaussure qu'il utilisait, lui, à cet événement-là. Donc, ça doit être durable, ça doit être solide.
S'il l'a choisi, c'est nécessairement que c'est bon.
S'il a couru 5000 km avec cette chaussure-là, elle doit être solide. C'est comme ça que les gens pensent en général.
C'est certain. Bon. Puis, à quelque part, c'est plus ou moins faux aussi, je veux dire.
Non, c'est vrai. Il y a un fond de vérité. C'est juste qu'il faut un commanditaire qui comprend ça. Donc, alors, en ce moment, je suis commandité quand même par Two Times You.
Okay. Two Times You?
Oui, c'est une compagnie australienne de vêtements de compression. C'est probablement, et puis pas parce que c'est mes commanditaires, là, mais c'est probablement la meilleure compagnie de compression. C'est leur business. Donc, leur nom s'écrit 2XU parce que tu as de la compression, tu es deux fois toi. Peu importe ce que ça veut dire. Là. Mais en tout cas, ça, c'est la compagnie australienne qui est dont la spécialité, c'est la compression et les autres vêtements par-dessus. Mais si tu regardes tous les grands athlètes, que ce soit dans le football, le soccer, tout ça, souvent tu vas voir qu'en dessous d'eux, ils vont avoir deux marques. Ou Under Armour, parce que c'est la marque la plus, je dirais, entre guillemets, populaire. parce qu'elle est, elle est bon marché, alors que Two Times You est vraiment plus moins bon marché, mais je te dirais beaucoup plus performante en termes de technologie. Alors, je les ai approchés, ils ont été super cool avec moi, ils ont dit on va commencer par quelque chose, on va voir ce que ça va donner, puis ça ira où ça ira après, mais on va commencer par un petit quelque chose d'abord. Fait qu'en ce moment, je suis commandité par Two Times You, puis j'utilise leurs produits depuis des années, fait que c'était pas comme, je n'ai pas de rencontrer un extraterrestre, là, c'est quelque chose de, que je connaissais
très bien. Tu utilisais déjà le produit, t'es approché parce que tu utilisais et tu connaissais le produit.
Et je connaissais la valeur, surtout. Donc, ça m'a permis de faire des choses que sans ça, probablement, que ça aurait été plus difficile.
Donc, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode pour ça, ceux que ça intéresse. Mm-hmm. Two okay. Time You. C'est sûr que moi, tu viens de piquer ma curiosité.
Ben, tu regarderas, si tu vas sur YouTube et tu fais Two Times You vidéo, il y a une vidéo de leur produit qui dure 3-4 minutes. Là. Si tu n'es pas inspiré par ça, je ne sais pas que ça prend. Chaque fois que j'ai montré cette vidéo-là à quelqu'un, il y avait ça larmoyait un petit peu. C'est plein de sports mélangés, il n'y a pas juste de la course là-dedans. Là.
Je comprends, c'est vraiment, c'est le produit. Je vais mettre le lien vers cette vidéo-là aussi dans nos notes d'épisode. Donc, si on a un commanditaire qui écoute, qui a de la vision, qui veut supporter Patrick, donc on va donner, de toute façon, plutôt on va donner les contacts de ton site web. Maintenant, je vais faire un petit pivot vers notre question « Back in time ». L'idée de cette question-là, c'est « J'ai une DeLorean modifiée dans mon garage pour retourner dans le passé ». On peut retourner voir Patrick, le coureur, dans sa vie n'importe quand. Premièrement, la question, c'est « Où on retourne et qu'est-ce qu'on dit à ce Patrick de cette époque-là? »
Commence à courir le plus vite possible, sérieusement, parce que dans ta vie, c'est la chose qui va te sauver le plus quand ça va mal.
C'est un super bon conseil. Ceux qui écoutent, qui ne courent pas, commencez le plus vite possible.
Ben, le plus vite possible pour deux raisons. La première raison, c'est parce que tu vas être en forme pour longtemps. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui décident de se mettre à courir à 50 ans parce qu'ils s'aperçoivent que leur bilan médical est pas bon. Mais si tu veux ne pas avoir à gérer ça à 50 ans, ben, commence à 20 ans à te tenir en forme. Mais d'une manière constante. Il faut que ça soit fasse partie de ta vie comme n'importe quoi d'autre que tu ferais d'une manière routinière. C'est pas exceptionnel d'aller faire ton conditionnement physique.
C'est ça. Il faut que ça devienne habituel. Une hygiène de vie, à même titre qu'on prend notre douche le matin, on va courir 2, 3, 4 fois semaine le restant de notre vie. On rentre ça dans un besoin primaire et non une activité quand on a le temps.
C'est ça. Donc, commence de bonne heure à t'occuper de toi pour que tu n'aies pas besoin de t'occuper de toi plus tard. Exactement. Ça va aller tout seul. Mais par contre, cette habitude-là de courir, va te permettre, au moment où tu vas être dans des moments difficiles, tu sais ce que tu peux retomber là-dessus pour te remettre sur le droit chemin.
Oui.
Donc, quand ça va mal et que tu sens que tout s'écroule autour de toi, tu sais quoi? Plutôt que de prendre des décisions maintenant, là, mets tes chaussures, va courir, exténue-toi un petit peu, reviens, puis regarde voir si c'est là tout à fait la même réflexion que tu vas avoir. Probablement pas.
Maintenant, on est rendu aux questions intervalles.
Vas-y.
Tu cours avec ou sans musique?
95% avec.
Ton accessoire indispensable?
À part mes chaussures, ce sont mes écouteurs.
Les écouteurs, OK. Puisque tu écoutes la musique, écouteurs sans fil, on en profite-tu?
Tu sais quoi? J'ai jamais essayé des écouteurs sans fil parce que j'ai toujours peur que quelque chose ne marche pas et que j'ai plus de musique. Mais là, je me dis, OK, Patrick, sérieusement, là, si t'es pas capable de courir sans musique, tu as un problème. Mais... Non, j'ai des écouteurs que j'adore. Là. Je les utilise. J'en ai eu plusieurs de la même marque. Depuis que j'ai commencé à courir, c'est toujours la même marque. Mais ils sont tellement écœurants que la musique est extraordinaire quand je cours. Ça me donne des ailes. Et je cours sur toutes sortes de musiques. Ça peut être du classique comme du techno ou de l'électronica ou n'importe quoi. De la musique, c'est de la musique en attendant que ce soit bon. Là, du classique avec un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est toujours aussi stimulant que du heavy metal dans une pente en descendant. Là.
Donc, un conseil en général à donner à nos auditeurs?
Si j'ai un conseil à donner, faites tout d'une manière progressive. Il n'y a pas besoin d'accélérer votre entraînement ou d'essayer de récupérer le temps perdu. Allez-y d'une manière constante, progressive, pour ne pas vous blesser. Parce que se blesser, c'est la pire affaire. Parce qu'on peut décider d'être découragé complètement de la course après être blessé, parce que ça a pris comme peut-être un mois pour se guérir ou des choses comme ça, puis on a peur. Fait que si on y va progressivement, théoriquement, on ne devrait pas se blesser.
As-tu une ressource, un livre, une application, un site web que tu veux nous suggérer?
Oui, il est très spécifique, mais il est quand même très le fun. Moi, j'écoute trois sources d'informations. Par exemple, en podcast, là, mis à part le tien, il y a trois autres sources. Et faut bien. Il y a trois sources d'informations pour moi que j'utilise, puis d'ailleurs que j'écoute pendant mes courses aussi. Il y a un podcast qui s'appelle Ultra Runner Podcast. Ça,
En anglais?
c'est. Ouais, c'est ça. Moi, j'écoute juste en anglais parce que, bon, c'est juste ça. J'écoute en anglais.
Je les écoute aussi en anglais. C'est pour ça que
OK,
je l'ai
parfait.
parti en français parce qu'il y a très peu de contenu en francophone d'ailleurs.
Mais c'est une très, très bonne source d'informations à tous les niveaux de la course, que ce soit même pour des gens qui courent un marathon. Mais eux sont plus spécialisés dans la course d'endurance au niveau ultra. Mais c'est tellement fascinant les choses qu'on peut apprendre en ultra qu'on peut appliquer sur des courses plus courtes, là. Alors, faut pas s'arrêter au fait qu'il y a des gens qui courent des 100 000 et puis des 3 000 000.
C'est ça,
J'ai
faut
appris
pas se
beaucoup.
décourager ou se penser trop petit. L'information est quand même pertinente, on peut l'appliquer à plus petite échelle.
Je suis passé à l'ultra à cause du fait que j'écoutais tout ça, tout le temps, ces affaires-là. Je dis, OK, à un moment donné, j'aimerais ça en essayer un. Ça m'a amené de distances traditionnelles à des distances plus ultra, à force d'écouter les aventures des autres qu'ils faisaient et comment eux se sentaient par rapport à ça. Puis j'ai appris des trucs et je dis, époustouflants, là. Il y a plein de trucs que j'applique aujourd'hui à la lettre.
C'est certain que je mets ça dans ma subscribe list et
OK.
j'écoute les prochains.
Le deuxième site que j'écoute, c'est un peu plus général, mais ça touche le sport aussi parfois. C'est Tim Ferriss.
Oui, je suis un adepte de Tim Ferriss.
Ouais, ça là, Tim Ferriss, au niveau surtout quand il rencontre des athlètes, c'est des athlètes là, top, top, top niveau, là, puis on peut en apprendre. Puis c'est très rare que sur les autres podcasts, il va y avoir ces athlètes-là.
Non, c'est effectivement très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des durées très variées entre 45 minutes et 2 heures et demie.
Ouais.
Mais même les suites de 2 heures et demie, on ne veut pas peser sur pause, on veut le finir.
Puis le troisième site, ça n'a rien à voir avec la course. C'est de l'histoire. Ça s'appelle Hardcore History. C'est des podcasts de 3, 4, 5, 6 heures de long sur des
Wow.
périodes historiques où tu apprends vraiment, par exemple, l'histoire de la Première Guerre mondiale, Genghis Khan, toutes sortes de périodes. Et c'est fascinant comment c'est raconté. Je cours puis je ne m'aperçois même pas du temps qui passe.
J'imagine que tu vas avoir le temps l'été prochain d'en apprendre beaucoup aussi pendant les 5000 km.
Ouais, je fais une combinaison, justement, pendant qu'on parle de ça. Je fais une combinaison musique et podcast. Donc, je me crée des playlists qui incluent des podcasts et de la musique à un certain intervalle. Par exemple, lorsque je suis en train de monter une très longue côte, j'écouterai pas un podcast sur l'histoire, c'est pas vrai, là. On s'entend. Quand je vais peut-être être sur du plat où je vois pas la fin de la route, je vais mettre quelque chose où je peux être sur le pilote automatique.
Pendant les
Mais
prairies.
je vais avoir les deux parce que même que faire des choses d'une manière constante est importante, là, ça prend aussi de la variation, de la variété lorsque tu écoutes, sinon tu deviens fou, là. Tu cours 10 heures par jour, on s'entend, là.
J'ai une question d'habitude qui s'appelle ton prochain défi. Je te demanderai
OK.
pas ça parce que je pense qu'on le connaît, mais tu as souligné un petit peu plus tôt qu'il y a d'autres défis après. Veux-tu nous en
Ouais.
dire vite fait?
J'ai deux défis que je veux faire à condition que je fasse celui-là. Le deuxième, donc après celui que je veux faire, le deuxième, c'est courir le parcours du Tour de France de l'année en question. Donc, je le saurais que quelques mois avant. Okay. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que tu cours des sections de la France, mais tu dois aussi te déplacer aux autres sections. Parce que ce n'est pas des sections contiguës.
OK.
Donc, tu vas courir peut-être 200 km à telle place, puis tu vas prendre un train, tu t'en vas à une autre place, puis tu cours un autre 300. Alors ça va être une expédition en soi, là. OK, donc il y a ça. Puis après ça, il y a un gars dont je ne me souviens jamais du nom, qui a couru du pôle Nord au pôle Sud. Bon, là, j'ai envie de faire ça pour battre son temps. Mais le problème, c'est que le pôle Nord est en train de fondre et
Faut y aller
que
à
ça va être...
l'âge.
C'est ça, ça va être difficile.
Ça va finir en Iron Man.
C'est ça, tu vas prendre un kayak, aller du pôle Nord à genre Radisson, puis après ça, tu cours jusqu'à la Terre de Feu, puis après ça, tu prends un bateau, puis tu arrives en Antarctique et tu cours jusqu'au pôle Sud. Mais bon.
Courir dans ces conditions-là, je ne savais pas que quelqu'un l'avait fait. Donc,
Ouais, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et j'ai regardé son documentaire. Le gars. Entre parenthèses, les gens qui font ce genre de trucs-là ne sont pas si jeunes que ça. Hein?
non, ça prend, ça prend de la, ça prend de l'endurance, ça prend de volonté, ça prend.
À ton auditoire, là, il n'y a pas grand monde dans ce 1% des athlètes du monde là, qui font ça en dessous de 35-40 ans. Ces grands, grands défis-là. Quand tu fais, par exemple, des défis comme de 2, 3 000 milles, tu vas peut-être trouver des gens un peu plus jeunes. Mais au-dessus de ça, c'est des gars dans leur quarantaine, dans la cinquantaine qui font ça. Là.
Oui, pourquoi?
Ben,
selon toi?
Ça prend un peu plus que de la jeunesse.
Ça prend l'expérience. Je veux dire, je courais pas dans ma vingtaine personnellement, mais j'aurais jamais eu l'expérience ou la maturité de dire je vais faire le défi, je vais partir, je vais aller chercher commanditaire, je vais. Tu sais, donc c'est sûr que ça prend une certaine volonté aussi.
Oui, il y a ça, mais il y a aussi peut-être quelque chose. Là, je spécule, j'ai pas d'études scientifiques qui prouvent ça, là, mais je dis quand on est jeune, on n'est pas patient.
Oui.
La course d'endurance de longue durée extrême dans ces projets-là. C'est obligatoire d'avoir de la patience. Parce qu'au nombre d'heures que tu cours, tu as besoin d'être patient. Tu ne peux pas raccourcir ce temps-là.
C'est ça. Tu peux pas faire une semaine de 15 minutes.
C'est ça. Un jeune de 25 ans, là, à moins d'avoir une maturité extraordinaire, n'aura pas la patience de faire ça.
Ouais.
Et puis, je ne dis pas ça pour être aucunement insultant envers les jeunes de 25 ans. Je pense que ça prend vraiment de la patience.
Ouais. Et aussi se rendre compte, parce que il y a comme un effet de temps, plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte que c'est pas long. Tu sais, si on dit « je me donne 2 ans pour m'entraîner », quand tu as 35-40 ans, tu dis « c'est court », tandis que quand tu as 25 ans, tu trouves que c'est la fin du monde.
Aussi. Puis on a d'autres choses à faire que faire ça. On ne va pas passer 2 mois de notre été à courir alors qu'on pourrait avoir du fun avec nos amis.
En plus. Moi, j'avais une question qui est ma question personnelle. Donc là, battez-moi pas les auditeurs, la famille de Patrick qui trouve qu'il est déjà irresponsable. As-tu pensé à ajouter un 2000 km et 30 à l'Atlantique?
Tu n'es pas le premier à me demander ça. Je te dirais oui, mais j'ai envie de finir devant ma mairie.
Tu rentres à la maison?
Oui. Puis en fait, si j'ai encore un dilemme, c'est est-ce que je finis devant la mairie de Montréal ou devant la mairie de Ville-Mont-Royal? Parce que la mairie de Ville-Mont-Royal est juste devant chez nous. Fait que j'aurais pas loin à aller pour après ça aller m'écrouler dans mon sofa une fois que j'ai fini.
Moi, j'irais pour Mont-Royal.
Ouais, on va faire ça.
Personnellement, là, si tu me demandes mon avis, c'est ce que je ferais. Si les gens veulent te contacter, en savoir plus, faire des dons, c'est quoi le meilleur point d'accès?
C'est mon site web où il y a tous les liens aux autres endroits. Donc, tu vas à www.braverk.com.
Excellent. Donc, on va mettre les liens dans le bas de l'épisode. Donc, ouais, il y a tous les liens pour te rejoindre.
Tu as deux endroits où tu peux faire des dons. Tu as un bouton qui dit des dons pour l'UNICEF et le deuxième bouton, c'est le don pour financer l'expédition.
Je vais en faire un à chaque.
Tu peux être un commanditaire si ça te tente. En tant qu'individu, les gens peuvent être des commanditeurs ou leurs entreprises, s'ils travaillent dans une entreprise qui est intéressée à avoir un bout de la tarte, ben, ils peuvent contribuer. Puis, comme je dis souvent, si tu contribues 10 $ ou 10 000 $, c'est bon pareil parce que ça s'accumule. Ton 10 $ aura à acheter 3 gels.
C'est 3 gels de plus.
C'est 3 gels que je vais avoir besoin.
Je vais définitivement faire un petit don sur chacun. Mm-hmm. Est-ce que l'UNICEF va te donner un rapport de combien tu as récolté? Est-ce que les gens qui donnent à l'UNICEF, on va avoir une échelle, quelque chose, savoir combien que ça a rapporté?
Oui, je leur ai dit de garder ça simple. Donc, à la fin de mon événement, parce que je ne veux pas me casser la tête à savoir d'avance.
Je comprends.
J'ai déjà assez de défis à organiser ça. Là, que j'ai pas besoin qu'on me dise à tous les jours combien il y a eu de dons. Je veux le savoir quand je reviens. Parce que je ne veux pas que ça me joue dans la tête.
Non, puis ça a augmenté plus. C'est une très bonne astuce.
Je ne veux pas non plus avoir atteint l'objectif et puis me dire, bon, ben regarde, finalement, je l'ai élevé les fonds, puis je n'ai pas besoin d'aller courir. Je ne veux juste pas ça. Là.
On garde la surprise. On se rend à la mairie de Mont-Royal, on traverse la rue, on s'assoit dans le sofa.
Après ça, on verra.
Après ça, on verra qu'est-ce qu'on a fait.
Exact.
Eh bien, Patrick, je te souhaite un super, super parcours. Tu m'as inspiré. C'est certain que je vais essayer de répéter ton expérience avant mes 53 ans. Je te remercie pour ton temps. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis si jamais ça t'intéresse, après ton défi, j'aimerais bien qu'on en reparle.
Parfait.
Ça je te lance l'invitation tout de suite. Je sais que c'est dans un an. Si jamais ça t'intéresse, j'aimerais ça qu'on se parle justement de peut-être qu'est-ce qu'on prévoyait, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça a fini.
Ça me fera plaisir de faire un part two avec toi.
Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Bonne
Merci
chance.
Merci beaucoup à toi. Au revoir.
Dans le but de garder les épisodes du podcast Coureur.io le plus intemporel possible, j'évite de mettre des dates, des prix ou des événements sporadiques qui auraient pu se passer durant la semaine. À ce compte, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre et avoir de l'information supplémentaire. Je vous invite à nous joindre au facebook.com/coureur.io. Merci Patrick, merci de m'avoir laissé le temps de te poser toutes ces questions-là. On a un petit peu dépassé le temps prévu. Je sais que j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient que c'était un peu long, donc je vous suggère de peut-être l'écouter en deux parties. Je ne vais pas le séparer en deux. Je vais simplement le laisser aussi long, mais ça s'arrête bien, ça se repart bien à tout moment. Si on a une chose à retenir de cette entrevue, sois ton propre héros. Je pense que c'est des belles paroles. Quand on veut faire quelque chose, arrêtez de vous comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même. Ça va être beaucoup plus facile et les victoires sont beaucoup plus agréables que si on regarde toujours le Usain Bolt de ce monde et dire « je n'arriverai jamais à le faire ». Plutôt regarder ce qu'on accomplit nous-mêmes. Je pense que c'est ce qu'on doit retirer. Un événement dont tu peux écrire un livre. C'est une phrase que j'ai trouvée intéressante dans cette entrevue-là. Qu'est-ce que ton livre raconterait à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu veux raconter? Aussi, conseil de course, on marche d'un bon pas nos journées de repos. Donc, si on prend des journées de repos de course, marcher est un très bon exercice malgré tout. Ce qu'on remarque chez Patrick, c'est qu'il veut stimuler les gens à faire quelque chose de plus grand que soi. Commanditaire, 2 Time You. Il cherche toujours un commanditaire pour commanditer son défi de la traversée du Canada. Si quelqu'un a une idée d'un commanditaire qui serait prêt à aider financièrement et j'imagine aussi de d'autres façons, Patrick, dans son défi de traverser le Canada en courant, c'est les bienvenus. Vous pouvez le rejoindre sur son site web qui est dans les notes de l'épisode. Les podcasts qu'il nous a parlé, le Ultra Runner Podcast, le Hardcore History et The Tim Ferriss Show. 3 très bons podcasts, dont un que je suis subscribe, les 2 autres que je vais commencer à m'y adonner bientôt. J'aimerais aussi vous rappeler de ne pas oublier de souscrire sur notre SMS 514-612-3039, 514-612-3039. Envoyez-nous un petit bonjour ou le numéro d'épisode 003, on va vous envoyer le lien vers les notes de cours et on va vous tenir à jour par SMS de tous les nouveaux développements du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne course! Envoyez-nous un petit bonjour ou le numéro d'épisode 003. On va vous envoyer le lien vers les notes de cours et on va vous tenir à jour par SMS de tous les nouveaux développements du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne course!